Voilà, à l'ancienne.
Allô?
Et voilà. Là,
Et voilà.
t'es à l'ancienne,
Bah, c'est bien,
hein.
moi je suis à l'ancienne. De toute façon, je suis un pépé, moi.
Non, mais là, c'est bien. Attends. Sound vérification. Ouais, c'est bon. C'est voilà, c'est avec de l'écho et tout. C'est vivant, ça marche. Donc oui, alors je reprends donc la suite de notre conversation. C'est vrai que ça de fil en aiguille et de chien en balle.
Chien en balle, c'est curieux comme animal, mais bon,
Ça
allons-y.
conduit à se poser la question des noms au sens, enfin plus largement. Et en fait, c'est vrai que du coup, je me suis dit, tiens. À la manière donc d'une grenouille qui s'interrogerait sur le moi, je me posais la question de mon nom, parce que c'est vrai que c'est un nom qui est pas facile, Baljou.
C'est turc, non? C'est ça, tu m'avais dit ça.
Ouais, c'est ce qu'on dit un peu dans la famille, en tout cas, on dit que ce seraient les vendeurs de miel, les Balji. Ouais.
C'est
Voilà,
joli.
mais du coup, enfin, ça c'est une chose, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose enfin, qu'on ressent. Moi, oui, j'aime bien le miel par ailleurs. Après, c'est pas non plus une passion, et qu'il y a d'autres éléments dans Baljiu, tu vois, comme ça, qui sont proches un peu de passion. Donc, par exemple, tu vois, quelque chose comme. Là, je sais pas
Tu
si
prépares
tu
quelque
l'entends.
chose?
Là, je suis en train de passer. Alors toi, tu vas pas l'entendre parce que c'est sur mon écran. C'est un match de Federer et Nadal, hein, à Wimbledon.
Ah ouais,
Tu vois des
oui,
histoires
c'est
de
vrai que ça.
balles.
Oui, ah joli, et oui. La balle qui est jaune, on la voit
Ça, tu
bien,
l'entends.
ouais, conformément à des lois gestaltistes comme ça, hein, de détachement de la figure sur le fond. Oui, c'est vrai. T'es un grand tennisman, toi, tu aimes bien ça. Ouais.
J'aime bien ça, et puis j'aime bien aussi Hugo Ball,
Bon, en tout cas.
puisqu'effectivement,
Eh oui.
c'était un peu nos points de départ. Parce que Hugo Ball, c'est presque la rencontre de la balle de tennis et du bal cabaret.
C'est vrai, d'ailleurs, tiens, j'ai cherché un petit peu des trucs sur lui. Et voilà. Il est dit que sa poésie est une tentative de retour
First
à
game,
l'alchimie la
second
plus
set.
profonde de la parole, afin de découvrir ou de fonder un nouveau langage non corrompu par la convention, et qu'une de ses formes les plus poétiques, les plus innovatrices, c'est le poème sonore, c'est-à-dire une succession de bruits qu'il récite pour la première fois au Cabaret Voltaire en juin 1916, avec une intensité fascinante et presque liturgique. Et alors,
Wow.
voilà, et peut-être on pourrait moi, j'avais préparé un petit truc là. Je sais pas si tu vas entendre, toi. Voilà, c'est Marie Osmonde qui, dans une improbable émission télévisée, peut-être américaine, peut-être canadienne, je sais pas exactement, fait une émission justement sur Hugo Ball. Alors c'est assez marrant parce que cette Marie Osmonde là, bon, c'est pas tout à fait, je sais pas, Annie Cordy, mais c'est pas un personnage peut-être très rigolo, mais en tous les cas c'est quelqu'un qui fait partie de la culture mainstream américaine, qui présente traîtrise à la télé et qui tout d'un coup s'intéresse à Hugo Ball et qui à un moment dit ça. Alors voilà, tu entends?
Ouais. Classic example of what Mr. Ball called sound poetry. Here's what it sounds like. A totally imaginary language invented by Mr. Ball.
Attention, ça a commencé.
Ah oui, non, mais c'est ça y est, on
Come
l'a.
into the blumba o folly humbla. Lo sigama pas la hod la hod mi gaga gorman. I global I go to swill huji. Holaka holala. A logo bang. Blago bang. Blago bang baso kutaka. Shamba uwana wasa. Ono bong. Echtara gorman se jumbada. Uluwa susubadi. Uluwa susubadi. Tamma. Ba uf. Kasagama.
Alors, elle est est très persuasive comme ça, elle est très habitée hein, par son texte. Et alors c'est assez drôle parce que c'est un peu comme si Chantal Goya tout d'un coup à la télévision française se mettait à faire des poèmes lettristes comme ça et voilà. Et
non mais parce qu'en plus il y a un lien avec le, alors assez inattendu du coup, avec le tennis, avec le cordage. Donc si on considère que donc de Annie Cordy on passe donc au cordage d'une raquette.
Et pour Chantal Goya, c'est plutôt à la peinture. Oui.
Il y aurait quelque chose de le moment où le cordage, donc il y a un souci au tennis. Enfin il y en a plusieurs, mais il y en a un qui peut intervenir pendant un match, c'est que le cordage lâche, qu'il casse.
Ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis là, parce que moi le quand tu me parles de cordage qui lâche comme ça, ça me fait penser tout de suite au bateau, tu vois, et à la figure de l'appareillage qui est une figure qui m'a longtemps fasciné. Enfin c'est pas la figure elle-même, évidemment est fascinante et chouette, mais son nom, quoi, voilà. C'est-à-dire qu'en bateau, quand tu largues les amarres, donc quand tu largues les cordages, en fait ça se dit appareiller, tu appareilles. Mais alors c'est drôle parce que en fait quand tu appareilles, c'est un moment où tu quittes le port, quoi. C'est-à-dire appareiller, l'appareil normalement c'est un truc qui est pareil, quoi. Enfin c'est un truc qui est prévisible.
Ah oui, de l'appareil au même.
Tu sais à quoi il sert l'appareil même, c'est ça, voilà. Tu sais à quoi il sert. Et finalement, l'appareillage, ben, c'est au contraire un moment où tu sors du port, tu te mets en péril, quoi. Tu sais que port, ça, c'est lié à péril aussi. Hein. Et donc voilà. Et donc, quand tu brises les cordages, eh bien, tu te mets en péril. Et peut-être il va y avoir du nouveau, un peu, voilà, cette crise du sens, là, que Hugo Boulle. Eh bien, dont il était friand. Voilà. Moi, ce que j'aime bien chez Hugo Ball aussi, parce que j'ai regardé ces trucs-là, et dans un programme de 1916, je me suis aperçu qu'il faisait un truc, que son poème, c'était Gadji Beribimba. Et ça m'a fait, alors, toujours mon tropisme gitan, parce que Gadji, évidemment, c'est du Romani, c'est du Manouche, quoi. C'est le Gadji, quoi. C'est-à-dire l'étranger, quoi. C'est celui qui n'est pas un homme, qui fait pas partie de la tribu, quoi.
Il y a le son de la balle aussi, enfin qui quand même pas rien, hein, enfin qui est lié à la poésie. Moi je vois là un livre posé sur la table de Christian Morgenstern dans une édition tchèque de 59, et sur le livre en première de couverture c'est bim bam boum, et je trouve que c'est, enfin souvent quand on veut finir le point assez rapidement au tennis, c'est bim bam boum, quoi, on en voit, quoi.
Mais pim pam poum, c'est pas trois petits personnages délicieux de dessins animés, là, de bande dessinée, oui c'est ça, hein. Voilà, hein, c'est une des premières bandes dessinées américaines, là, hein, à la fin du 19e siècle, quoi. Hein, ouais, c'est un strip américain, c'est ça, ouais. Rudolf Dirks.
Toi, t'as joué au tennis, Thierry, ou pas? Enfin, où est-ce que...
Alors moi, bon, tu sais que moi, avec ma polio, bon, j'ai jamais été très... alors, moi, il y a un truc, c'est que j'ai toujours été ultra nul dans tous les jeux d'adresse. C'est-à-dire, toi, tous les jeux de bar, où j'espérais de bar, tous les jeux de bar, les bar-jeux, eh bien, j'ai toujours été nul, parce que, je sais pas, j'ai, tu vois, les fléchettes, le flipper, le baby-foot, je ratais toujours tout, quoi. Je suis absolument pas habile, quoi. Je sais pas si c'est lié à ma maladie, et donc le tennis c'était pareil.
Habile et balle.
Habile, ouais, c'est habile Jiu, et j'étais pas habile au jeu, voilà. Et du coup, non, du coup, j'ai toujours été complètement nul. Je ratais la balle, en fait. J'arrivais pas, tu vois, à choper. Je crois que c'est d'ailleurs un des trucs les plus durs, tu pourras le dire, ça. De centrer la balle, paraît-il. Il faut centrer la balle et pas être trop puissant. Et c'est la raquette qui est puissante, tu vois. Toi, tu en penses quoi de ça? J'ai entendu ça une fois à la radio.
Bah, je pense que pour éviter effectivement les ruptures de cordage, il faut un bon équilibre entre ce que tu dis toi, le centrement, et puis le bim bam boum. C'est-à-dire qu'effectivement,
c'est Jean-Luc Nancy qui disait ça à la radio une fois.
Bah alors ça c'est super bizarre, parce que mon prof de tennis, qui était très important quand je grand, enfin pendant toute ma jeunesse et mon adolescence, il s'appelait Jean-Luc. Mais je sais pas si c'était Jean-Luc Nancy.
C'est un philosophe, dis donc, c'est tellement génial. Si c'est Jean-Luc Nancy qui t'a appelé, appris à faire du tennis, je comprends ton niveau exceptionnel en linguistique et dans toutes ces matières comme ça. Mais moi, il me semble que c'est Jean-Luc Nancy qui... j'ai peur de dire une énorme connerie, mais qui était aussi un féru de tennis et qui disait ça, voilà, que le plus dur, c'était de centrer la balle. Voilà, écoute, ces centrements de balles, tout ça est joli.
Sur la couleur jaune, parce que là aussi, il y a quelque chose qui, moi, me met en lien. Après, on va parler du jus. Enfin, du coup, le jaune, toi, ça te suggère quoi?
Bah, le jaune, alors tu sais que le jaune, c'est une couleur instable. Hein, là, je vais faire mon Michel Pastoureau. Hein, voilà, donc le jaune, c'est une couleur instable. Et au fond, on dit le jaune, mais il y a deux jaunes, quoi. Hein, il y a deux grands jaunes. Il y aurait le jaune chaud, quoi. Le jaune avec du cyan, quoi. Hein, le jaune d'or, quoi. Voilà, alors là, l'or, le blé, le soleil, enfin des choses comme ça chaleureuses et positives. Et puis il y a le jaune froid, quoi. Hein, il y a le jaune vert, quoi. Et alors celui-là, évidemment, il est beaucoup plus flippant et il est instable. Il est lié au vert qui a longtemps été la couleur du diable. Tu vois, à aussi ce jaune du soufre. Qui se forme sur les volcans, donc qui vient de l'enfer et qui est irrespirable au propre. Bon, voilà. Et donc, voilà ce que ça me dirait. Mais sinon, il paraît que le jaune, il est choisi pour les balles de tennis parce que c'est l'une des couleurs les plus, on dit actiniques. Ça veut dire qui est le plus prégnant, quoi. Tu vois, qui est le plus irradiant, on pourrait dire, au niveau des fréquences colorées. Voilà.
Ça donne clairement des éléments d'élucidation qui sont importants. Moi, je regardais aussi du côté de l'orange, parce que du coup, bah voilà, enfin, je cherchais des choses sur le jus assez rapidement. Alors, c'est peut-être un peu facile, mais je suis revenu vers l'orange de Ponge. Et je me suis dit, tiens, peut-être que là, je verrai aussi des choses qui pourraient nous conduire de la balle vers d'autres conditions.
Ah, du coup, c'est joli.
Je vais vous lire. Simplement, hein, ce texte de Ponge sur l'orange, on va voir s'il y a des choses qui peuvent être...
Le Pinch Ponge.
Le Pinch Ponge et le Francis Éponge, qu'on a utilisé notamment avec Olivier, qui est un de nos personnages de Bibliomania. Et d'ailleurs, de manière assez...
Enfin, d'Olivier, il y a John Lemon aussi, hein, évidemment, et le jus du fameux John Lemon d'Olivier aussi, évidemment.
Qui d'ailleurs, je crois qu'il est... je vois un Olivier Brown parmi les auditeurs et auditrices. C'est peut-être une coïncidence, mais je ne sais pas. En tout cas, du coup, dans l'orange, on va prendre l'orange. Alors, bah, ça commence bien. L'orange. Alors. Comme dans l'éponge... Il y a dans l'orange une aspiration à reprendre contenance après avoir subi l'épreuve de l'expression. Mais où l'éponge réussit toujours, l'orange jamais. Car ses cellules ont éclaté, ses tissus se sont déchirés. Tandis que l'écorce seule se rétablit mollement dans sa forme grâce à son élasticité, un liquide d'ambre s'est répandu, accompagné de rafraîchissements, de parfums suaves, certes, mais souvent aussi de la conscience amère d'une expulsion prématurée de pépins. Faut-il prendre parti entre ces deux manières de mal supporter l'oppression ? L'éponge n'est que muscle et se remplit de vent, d'eau propre ou d'eau sale, selon. Cette gymnastique est ignoble. L'orange a meilleur goût, mais elle est trop passive. Et ce sacrifice odorant, c'est faire à l'oppresseur trop bon compte, vraiment. Mais ce n'est pas assez avoir dit de l'orange que d'avoir rappelé sa façon particulière de parfumer l'air et de réjouir son bourreau. Il faut mettre l'accent sur la coloration glorieuse du liquide qui en résulte et qui, mieux que le jus de citron, oblige le larynx à s'ouvrir largement pour la prononciation du mot comme pour l'ingestion du liquide, sans aucune moue appréhensive de l'avant-bouche dont il ne fait pas se hérisser les papilles. et l'on demeure au reste sans parole pour avouer l'admiration que mérite l'enveloppe du tendre, fragile et rose ballon ovale dans cet épais tampon buvard humide dont l'épiderme extrêmement mince mais très pigmenté, acerbement sapide et juste assez rugueux pour accrocher dignement la lumière sur la parfaite forme du fruit. Mais à la fin d'une trop courte étude, menée aussi rondement que possible, il faut en venir au pépin. Ce grain de la forme d'un minuscule citron offre à l'extérieur la couleur du bois blanc du citronnier, à l'intérieur un vert de pois ou de germe tendre. C'est en lui que se retrouve, après l'explosion sensationnelle de la lanterne vénitienne de saveur, couleur et parfum que constitue le ballon fruité lui-même, la dureté relative et la verdeur, non d'ailleurs entièrement insipide, du bois, de la branche, de la feuille, somme toute petite, quoique avec certitude, la raison d'être du fruit. Et moi, ça me donne envie d'avoir des balles de tennis orange.
C'est vrai, mais ça existe, hein, sûrement. Hein. Mais oui, non, c'est luxuriant. Hein, là, je ne me rappelais plus d'un ponge aussi luxuriant. Là, il est, ça là, dis donc, il est lyrique, hein, quand il parle orange. Alors, moi, c'est marrant quand tu, parce que on a discuté un peu évidemment avant là de cette histoire de jus. Alors moi, c'est vrai qu'au début, j'étais un peu plutôt sur le jeu. Bon, j'y reviendrai après si on a le temps, bon, mais le jeu, ça me, voilà, ça me paraissait you, ça fait e plutôt, enfin, dans mon esprit, enfin, puis le jus, moi, ça me faisait un peu peur parce que je sais pas, dans le jus, il y a un peu, c'est un peu propre, le jus, en même temps, hein, parce que le jus, c'est un peu le concentré, l'essence, enfin, il y a un phénomène de tamisage, hein, tu ne gardes que la substantifique moelle, on pourrait dire, hein, le jus, c'est l'essence, c'est le concentré, et donc tu laisses plein de matière, et moi ça me plaisait pas trop ça, puis toi, je voyais un peu toutes les histoires un peu idéalistes avec Platon, tu vois, le il faudrait retourner au jus, tu vois.
Ouais, oui, tu vois, quelque chose un peu d'essentiel, ouais.
Laisser les écorces comme ça pour aller au jus, etc. D'abord, puis je voyais aussi les drinks, évidemment, je t'imaginais comme ça, en Californie, avec dans une piscine en forme de raquette, par exemple, voilà, en train de siroter ce truc dans une chaise gonflable. Et puis ensuite, je me suis rappelé d'une scène. Alors, je vais te faire écouter le son.
Ouais, vas-y.
Peut-être c'est parti. Peut-être tu vas reconnaître. Alors, je ne sais pas si tu entends, mais on sent déjà de l'eau qui coule, quoi. Hein, on sent que... Alors, cette scène, c'est une scène qui est issue d'un film qui s'appelle Sayat Nova. Donc, la couleur de la grenade. Et alors là aussi, il y a des questions de jus, parce que le jus de la grenade est rouge, ça ne sent pas. C'est un film de Sergei Paradjanov. Et alors, il y a cette scène qui est, qu'on entend là, c'est la scène dite des livres.
Et alors, oui.
Voilà, on entend là les gens parler en arménien, parce que c'est en Arménie que ça se passe, voilà. Et alors c'est bon, je vais couper, sinon je ne suis pas sûr qu'on entende. Et donc, c'est une scène d'enfance du poète, puisqu'il s'agit de la vie de ce poète arménien, là. Et donc, il y a des livres qui sont mouillés. D'ailleurs, tout le... Alors, ça se passe dans une église arménienne. Alors, évidemment, je ne peux pas ne pas penser aussi à ta dimension orientale, comme ça, là, voilà. Hein, c'est à ces églises roumaines, pourquoi pas, là.
Da.
À ces christianismes. Non, mais c'est christianisme. Alors, évidemment, je sais que l'Arménie, le roumanisme, tout à fait la même chose.
Dada.
Enfin, bon, des choses, voilà. Et Dada, global, voilà.
Dada.
Hein, voilà. Et en tous les cas, ce qui est très, très beau, c'est qu'ils mouillent les livres. Ils mouillent les livres, ou alors les livres sont mouillés, d'ailleurs même les habits des prêtres sont mouillés, tout est mouillé, tout coule sur cette église, et ils appuient une grosse pierre sur des tas de livres, et l'eau sourd comme ça des livres, et d'ailleurs il y a des scènes extraordinaires où les livres sont mis, après avoir été mouillés, à sécher sur les toits. Et donc le petit enfant se balade sur les toits, là, comme ça, là, et je le relance, là, voilà, et il pose les livres ouvert pour qu'il sèche sur les toits et les feuilles de ces vitres comme ça volaient avec le vent, quoi. Posées comme des tuiles sur le toit. Alors même l'idée de la tuile, c'est assez beau, hein, parce que la tuile, voilà, hein, le langage passe de tuile en tuile, qui est toujours articulé à un avant, un après, etc. Et ces vitres qui sèchent. Et alors c'est marrant parce que ça m'a ramené un autre truc, une autre histoire de livre et d'écriture qui est celle des Mayas. Et alors bon, alors justement, l'histoire de bibliothèque, depuis hier, je cherche frénétiquement un livre que je n'arrive pas à retrouver.
Vas-y, voilà, dis-moi.
C'est l'histoire de langage, hein, et qui parle justement de la culture de l'écriture maya. Par un monsieur qui s'appelle Michel Bocara, qui est assez passionnant en général, assez frénétique, assez drôle, et qui nous dit qu'en fait les écritures mayas sont des écritures d'ombre, c'est-à-dire des écritures qui sont pas là pour nous faire comprendre les choses, mais plutôt pour nous faire comprendre combien les choses sont obscures. C'est des écritures d'obscurité. Et alors si j'en reviens aux mayas, c'est parce qu'effectivement il paraît que les prêtres mayas, donc qui sont en charge des livres, hein, puisque comme souvent dans des civilisations dites premières, ou voilà, bah, je sais pas si c'est si premier d'ailleurs les mayas, enfin peu importe, c'est les prêtres qui s'occupent de l'écriture, et il paraît que il y a une cérémonie qui fait que tu mouilles le livre. C'est-à-dire que tu remets du jus, en fait, dans le livre. Tu remets du jus dans le livre et tu remets du jus pour que le livre retrouve de l'énergie.
Oui, je fais ça.
Énergie, jus, tu vois, énergie. Voilà. Et bon, donc, ça, c'est, voilà ce à quoi ça m'a fait penser. Voilà, je t'imaginais un peu sur ces jeunes, sur ces toits, là, des églises orthodoxes roumaines en train d'ouvrir des livres mouillés.
Oui, ben on fait ça assez régulièrement. Et puis, là, chez les Mayas, ce qui est intéressant, c'est cette situation de double polyphonie aussi, qui est une polyphonie dans l'inscription et une polyphonie dans le déchiffrement. Qu'il y a cette possibilité de laisser du jeu. Et là où il y a du jus, après, on peut laisser du jeu à l'écriture et laisser du jeu à la lecture, où tout n'est pas inscrit, tout n'est pas encapsulé en termes de signification. Et c'est quelque chose qui est aussi assez, assez beau et résonne avec les élans pataphysiques qui peuvent traverser mes envies, et notamment cette très belle citation de Jarry en linteau, je crois, d'un texte qui dit de suggérer au lieu de dire, et de faire de la route des phrases le carrefour de tous les mots.
Ouais. Alors c'est beau là, le jeu là, hein, parce que c'est vrai, alors bon, je t'ai dit, hein, que pardon, que moi jeu, ça me paraissait plus intéressant que jus, mais tu as raison, il y a un lien entre les deux. Et d'ailleurs, moi j'ai été frappé quand j'avais été confronté à une définition du jeu qui expliquait que le jeu, dans le cadre des mécanismes, c'était l'écart qui pouvait apparaître entre deux engrenages, et c'est-à-dire l'écartement, quoi, hein, et qui faisait que l'engrenage fonctionnait. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de jeu, c'est-à-dire s'il n'y a pas assez d'écartement entre les engrenages, eh ben, il sert, quoi. Et ça ne fonctionne plus, ça ne tourne plus. Et je trouve ça beau, moi, l'idée que le jeu, c'est l'écart entre les choses qui permet leur fonctionnement. Donc c'est presque le jus, tu vois, l'espace. Enfin, ou du moins, c'est pas pour qu'il y ait du jus, hein, pour que peut-être les incroyables machines, hein, tu parlais d'Orange, là. Moi, ça me fait penser à ces machines qu'on actionne tout seul dans les hôtels, là, tu sais, où tu mets l'orange en haut.
Ah, et ça tourne, le carrousel à orange.
Comment ? Oui, voilà, c'est ça. C'est un truc extraordinaire, hein, qui rappelle les machines dadaïstes, hein, justement, enfin françaises, c'est toi, les trucs du champien ou picabia, bon. Et donc, c'est l'écart qui fait qu'il y a du jus, quoi, hein, qui fait que ça écrase cet orange, là. Et quand tu parlais d'orange avec Ponge, il y avait un truc aussi qui m'épatait, c'est cette distinction comme ça entre intérieur et extérieur. Et c'est vrai que dans les fruits, mais l'orange peut-être en particulier, l'orange à jus en particulier, il y a vraiment cette opposition, c'est vrai, entre l'écorce comme ça, qui est brillante, qui est belle, mais dont tu sens qu'elle est fermée, quoi, hein, qu'elle est formée, quoi, hein, c'est, voilà, il y a une forme, et puis en même temps dedans il y a du jus, quoi, hein, et c'est-à-dire que tu sens qu'effectivement quand tu l'ouvres, quand tu l'écrases, pouf, hein, il y a un truc intérieur qui se libère, ou qui surgit, qui s'ouvre, hein, et avec cette opposition marrante entre effectivement intérieur et et extériorité. Voilà, je parle de ça parce qu'en ce moment je lis Portman et c'est un type qui s'intéresse aux animaux et à leur beauté et qui commence en insistant justement sur la différence entre l'extérieur et l'intérieur dans les corps, quoi, dans les structures de corps. Et par exemple, il nous explique que l'extérieur est souvent symétrique alors que l'intérieur, nos organes à l'intérieur sont pas forcément symétriques, surtout dans les organes un peu dans les êtres un peu développés comme toi. Avec des coups droits et des revers différenciés.
Mais du coup, alors ça c'est une question que j'allais te poser, c'est de savoir si tu parles suédois. Enfin, je sais pas si tu lis le suédois ou si
mal.
Tu parles le suédois. Parce que une autre figure qui m'intéresse pas mal, c'est Øyvind de Falstra. Et non, parce qu'en fait. je vais peut-être te lire juste un passage en fait de Moa. C'est le titre du texte, donc je vais le lire moi-même. En fait, ça.
Moi par moi.
Et en fait, je vais juste lire le passage qui va du Shuka jusqu'à Skola. Parce qu'en fait, l'école aussi est assez importante, donc on va voir qu'est-ce qui se passe si on part de Shuka et qu'on arrive jusqu'à Skola. Donc ça va ainsi. Shuka. Talar, Som, Tigrar, Fer, At, Fa, Flita, Iker, Angbro, Pambranen, Gresligt, Nu, Klipa, Bort, Monglare, Bort, Ber, Catalogue, Sieux italienne, Best, Navna, Copina, Stengbat, Fest, Hina, Av, Nakendot, Kort, Pipa, Bena, Ifat, Skitmeta, List, Rock, Skaka, Skola.
C'est très clair. C'est un poème du Gobal ?
Non, c'est un fragment de Moa. Alors effectivement, bon, je pense que c'est peut-être aussi une traduction d'une certaine manière en suédois du Gobal. Ça, j'en conviens. Mais c'était assez étonnant, en fait, cette proximité dans le suédois. Alors je pense pas du tout que ça veut dire jus et école. Mais moi, je l'ai perçu vraiment comme... le glissement du jeu vers l'école. Par.
L'école du jeu, quoi.
L'école du jeu, oui.
L'école par le jeu. Freinet.
Et l'imprimerie, l'imprimerie à l'école aussi avec Freinet.
Comment ?
L'imprimerie à l'école avec Freinet.
Bien sûr. Mais c'est plutôt Pianet, le jeu et l'école, non ? Alors je m'embourbe souvent dans les noms. Hein.
Bah c'est mal barré pour une émission sur les noms.
Oui, c'est vrai. Mais c'est drôle ce que tu dis, mais c'est vrai que moi je suis un spécialiste pour mélanger les noms. Et par exemple, je ne me rappelle jamais les noms de mes étudiants. Et d'ailleurs, je suis obligé souvent de leur donner des surnoms. Alors c'est un peu narcissique, hein, mais ça fait des jeux de mots avec les noms. Enfin bon, j'arrive pas à retrouver cette référence, mais peu importe. Mais par contre, ton jeu là, alors évidemment, là du coup, ça me renvoie sur les jeux. Alors j'avais préparé des petits trucs, par exemple, j'étais allé regarder le bouquin de Georges Perec qui s'appelle Jeux intéressants.
Vas-y.
Et par exemple, là, par rapport à ce que tu disais là, alors toi tu faisais t'étais dans l'école, le jeu, ben, c'est passionnant évidemment, mais alors moi j'étais resté dans le jus, et alors j'avais sélectionné un truc qui est un truc qui est dans les histoires de fluide comme ça, de la pluie à l'étang. C'est beau, ça, c'est la pluie, tu vois, qui coule comme ça, puis l'étang, le truc qui le retient. Et alors, c'est un de ces jeux de un jeu lettré, un jeu de lettres, hein, on reste dans nos histoires, là. Et l'idée, c'est que tu ne changes qu'une lettre à chaque fois. Alors, ça fait pluie, plaie, donc le U s'est transformé en A, plane, le I s'est transformé en N, glane, le P s'est transformé en G, gland, alors glane, gland, hein, voilà, grand, grante, orante, autant, hein, autant, ça me plaît.
Orange,
ça.
Autant.
Étant, ouais, c'est ça. Étant avec un T et étant avec un G. C'est pas mal. C'est alors, ça. Tiens, j'avais prévu d'autres choses alors dans les jeux là. Alors j'avais fouillé un peu dans la bibliothèque et puis j'étais tombé sur ces petits livres dont je sais que tu les aimes aussi là de chez Chou là.
Les ah mais c'est jeux, les... je les ai sur mes genoux. Chou genoux. Je les ai vraiment là parce que j'allais justement te.
Alors justement, il y avait ces jeux de lettres précisément. Et en fait, donc avant Pierre Dichouliau, il y a des gens qui se sont intéressés à la façon dont on épelle les lettres, hein, puisque tu sais que les lettres et notamment les consonnes, hein, il faut les vocaliser, hein, c'est pour ça qu'on les appelle les consonnes, hein, c'est des lettres consonnes qu'on doit sonner, quoi, qu'on doit sonner en les vocalisant. Et alors ça peut faire des petits jeux assez marrants, évidemment. Par exemple, le son le, hein, qui est représenté par une lettre, hein, qu'on connaît bien, et ben en fait on dit L, on rajoute un son. Et alors ça peut faire des histoires assez jolies comme l'histoire d'Hélène. Je te la raconte.
Vas-y.
Alors il faut penser que tout ça c'est des lettres. Alors ça fait LN, donc un L un N, L N N E. Alors la subtilité c'est que les E sont des E, hein, donc ça fait L N N E. O P Y L-I-A-T-T, donc elle est née au P-Y, L-I-A-T-T, L-I-A-V-Q, L-I-A-V-Q, L-I-A-E-T-L-V, L-I-A-T-L-V, hein? L-I-A-E-T-O-Q-P, L-I-A-E-T-E-D, voilà, L-I-A-M-E, L-I-A-E-T-E, M E E A I. Donc elle y a été aimée et A I. L I A E T D S et D I T. D S et D I T, c'est pas beau ça. L I A C D. L I A O D I. L I A E T H T. L I A E T H T. A B C K O T. L-I-A-V-G-T. Alors là, c'est, attention, L-I-A-R-I-T E-I-E-D-C-D A-G-E-K-C. Voilà.
Mais non, mais ça, c'est étrangement proche de Louise de Villemorin aussi, l'alphabet des aveux. L'alphabet des aveux.
Ah, je connais pas celui-là.
C'est, alors, je peux aussi peut-être en répondre. Par exemple...
Ça me fait penser au truc d'Alfred de Musset, là, les choses salaces cachées dans les acrostiches ou dans les régularités de prose comme ça qui ont l'air badines.
Après, oui, c'est tout est question aussi de mots sous les mots et de noms sous les noms.
Ouais. Les rhétoriqueurs aussi. Hein,
et là, je vois une sorte de calligramme de Louise de Villemorin qui représente une sorte de Ferdinand de Chaussure. Mais par contre, je... Non, non, il y a des choses comme ça. Par exemple... Ah, mais alors, c'est sur Hélène aussi. Mais alors, mais c'est de quelle...
C'est peut-être d'elle, hein. Alors, il n'y a pas de source, là, dans mon... L'ami Chou, il est voilà, Chou est léger, quoi.
Oui, bah c'est un éternuement bibliographique.
Voilà, il est très Chou, mais il ne donne pas ses sources. Voilà, cette source. Hein, voilà.
Non, parce que là, j'ai alors dans l'alphabet des aveux de Louise de Villemorin, j'ai O J V M O M I L M R O J V M O M I L M R A B I A B I A B I A B I L N M A et F Y L H R L E T. L N M A et F Y et la chair et l'été. Donc ça nous conduit vers l'été. Et alors chose que j'ai trouvé aussi assez surprenante, toi t'as les deux volumes aussi de Chou. Donc il y a il y a jeu d'esprit et il y a rébus.
Les rébus, ouais. Alors les rébus, c'est plus chaud à dire à la radio. C'est pour ça que j'en ai pas parlé.
Non, mais il y a un truc qui, moi, m'est resté comme ça depuis la nuit dernière. D'ailleurs, j'en ai pas forcément très bien dormi à cause de ça. C'est
nom de Dieu.
Que, en fait, il y a donc juste après le début donc du livre des rébus, qui est aussi du coup le livre des débuts ou le vivre des débuts, il y a un petit encadré noir qui est presque assez informatif, presque assez autoritaire et qui dit « Les solutions sont au verso des énoncés ».
Ah, c'est vrai, c'est vrai.
Mais est-ce
et d'ailleurs,
que
c'est au verso du début, d'ailleurs. Et le début qui est lui-même un rébus, et peut-être c'est la solution de ce rébus-là.
C'est...
Il y a une petite illustration avec un petit chien ou un petit singe, je ne sais pas. C'est
oui, c'est
singe,
ça. Oui, c'est un singe...
Mais oui, parce que là, les lettres singes, c'est ça. Tu sais, c'est le vieux truc du singe comme figure du peintre, parce que le peintre singe. Et là, en fait, toutes les... C'est vrai que dans un rébus, ce qui est marrant, c'est que toutes les images singent des mots.
Mais si, est-ce qu'on peut dire que si le peintre singe, est-ce que le chien andalou?
Andalé. Andalé, ça veut dire en avant. C'est le chien andalé. Le chien, oui, qui avance, oui, pourquoi pas, écoute.
Alors ça c'est dans l'autre livre, ça c'est donc le livre des jeux d'esprit. Il y a un jeu sur les noms aussi. Alors je pensais de l'évoquer parce que je le trouvais assez assez étonnant. C'est les jeux de langage surréaliste. Tu sais, c'est donc le jeu des définitions.
Je sais pas si tu... c'est quelle page ?
Donc c'est jeux de langage. Je le lis pour nos auditrices et auditeurs, comme ça permet de se remettre ça à l'esprit. C'est le surréalisme, au dire même de Breton, a pris naissance dans une opération de grande envergure portant sur le langage. Sous forme de poésie, le langage doit en effet mener quelque part, et l'on ne saurait s'étonner qu'il soit mis en cause dans la plupart des jeux inventés ou adaptés par les surréalistes. Mais, abstraction faite du minimum de représentation qu'entraîne toute image poétique, certains jeux, dans leur principe, s'en tiennent aux mots et à la syntaxe. Donc, A, les définitions. Le jeu se joue 2-2. Donc, comment on fait, nous, là? Le questionneur, à l'insu du questionné, s'informe par écrit. Qu'est-ce que... Et son partenaire, en toute méconnaissance de cause et dans les mêmes formes, lui répond « C'est... » Donc, sous le titre « Le dialogue en 1928, la révolution surréaliste publie quelques résultats. » Donc, Raymond Queneau pose la question « Qu'est-ce que Benjamin Perret ?» Et donc, Marcel Noll répond « Une ménagerie révoltée, une jungle... » La liberté.
Waouh. C'est beau. Belle jungle.
Et par contre, il y a aussi des moments où tu parlais d'ombre. Antonin Artaud pose la question nuit ou gouffre. Et André Breton répond c'est de l'ombre.
Ici l'ombre. mais justement, alors c'est marrant parce que là tu disais Queneau. Et moi, je pensais Penaud. Et alors, tout d'un coup, je me suis dit, mais attends, tout à l'heure, je disais Pianet, mais c'est pas Pianet, c'est Piaget. Alors, tu vois, mes fameuses erreurs sur les noms, quoi, voilà. Et donc, effectivement, c'est le bon lieu pour en parler, docteur, je m'allonge. Et c'est vrai que Piaget, voilà, oui, bah, Piaget, pour le rapport, évidemment, de l'éducation par le jeu. Hein, voilà, évidemment. Hein. Voilà, le jeu, moyen d'informer, moyen de... Le jeu sérieux des enfants. Ça aussi, c'est un truc qui est assez marrant. Au fond, justement, les surréalistes, les dadaïstes, etc., bah, c'est des gens qui jouent, mais qui jouent sérieusement, comme les enfants. C'est à la fois drôle, et ça construit, et ça déconstruit, quoi. Et je pense que là, on est vraiment aussi dans des lieux importants pour nos histoires de langue et de langage. Hein. Alors justement, langue et langage, je continue, parce que toujours dans mes à peu près, là... Dans mes amphigouries, alors on a dit je, on a dit jus, mais on pourrait dire joue aussi, hein, parce que, et alors là, la joue, quoi, hein, bon, la joue, le jeu de la joue, quoi, hein, et le jus de la joue, le jus du jeu de la joue, et je pensais évidemment à ce truc de Duchamp, là, avec with my tongue in my cheek, c'est ça, hein, alors, excusez mon anglais, hein, donc avec ma langue dans ma joue, et qui caractérise une figure de style, hein, qui est l'idée d'une phrase qui est ironique, d'une phrase qui est espiègle, c'est-à-dire d'une phrase qui se retourne sur elle-même en quelque sorte, d'une phrase qui dit d'une façon, ou alors c'est d'autres éléments qui le disent, qu'il ne faut pas la prendre pour argent comptant, enfin que dans cette phrase il y a des précautions, il y a des écarts, il y a des jeux justement, il y a des rétentions. C'est-à-dire, on retient des choses.
Des rétentions de jus ?
Des rétentions de jus, par exemple. Mais des rétentions de jus. C'est-à-dire, tout n'est pas dit dans cette phrase. Et je trouvais ça intéressant aussi, la balle dans la joue, quoi.
Ça tombe bien que tu évoques la joue, parce qu'en fait, je voulais ouvrir sur la barbe. Parce que ça, on va ouvrir sur la barbe dans quelques instants, parce qu'on va passer le relais à un poulpe à barbe. Oui,
ah,
un poulpe à barbe.
C'est rare. Quoique le poulpe, tu sais. Alors moi, je suis un ami des poulpes, hein, et des pieuvres, j'adore. Et alors, c'est fantastique, les pieuvres et les poulpes, parce que on a dit intérieur et extérieur, mais alors c'est des animaux qui visualisent leurs émotions, parce que tu sais que quand le poulpe fait quelque chose, il change complètement de couleur et il change aussi d'apparence. Et d'ailleurs, il y a pas mal de poulpes qui, quand ils s'arrêtent comme ça, non seulement changent de couleur, mais ont des formes qui sont comme des barbes. Tu vois, comme des barbes, des lichens, des petites algues qu'il y a sur les rochers. Et donc voilà, le poulpe à barbe, ça existe en fait. Hein.
Oui, il embarque un peu avec lui son environnement proche. Il balaye en fait avec lui toutes les... Il brasse.
Il photographie. Alors, je ne sais plus qui a dit la peau, c'est ce qu'il y a de plus profond. Mais tu vois, il est effectivement dans un rapport comme ça de tu vois à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas, je suis là-dessus en ce moment.
Photopoulpe.
Et il photographie un peu, c'est comme s'il photographie aussi son environnement, quoi. Il s'en imprègne, voilà. Comme si le jus remontait, quoi. Hein, voilà, pour continuer.
Donc la barbe, il y a bien là quelque chose qui peut aussi ouvrir. On n'est plus dans le non direct, on n'est plus dans la balle, dans le jeu et le jus. Mais parce qu'en fait, je commence à signer un peu en ce moment Alex Barbou.
Barbou.
Parce qu'en fait, il y a aussi un truc assez intéressant. Mais il faudrait raconter une histoire un peu ancienne. On n'a pas forcément le temps. Qui est l'histoire en fait de Pline l'Ancien et de la question de grappes de raisin qui sont plus ou moins bien représentées.
Parasios, et
voilà.
Voilà.
Et autour de justement des problématiques aussi de suspension et d'attention, parce que une histoire dit que effectivement cette tentative de mimétisme se traduirait en fait vers une forme de prise d'autonomie de l'oiseau qui s'émancipe du seul pouvoir de reconnaître, et il va, selon le mythe ou l'histoire rapportée de l'ordre du troisième oiseau, serait finalement en mesure de donner de l'attention à cette grappe peinte.
Et oui,
voilà, ouais. De décider de suspendre son vol et de regarder et simplement d'écouter intérieurement, de voir cette grappe. Et en fait, chose assez étonnante, c'est que ces textes de Pline l'Ancien qui nous suggèrent cette idée-là ont été édités par un imprimeur de parisien assez important au XVIIIe siècle, qui est Barbou.
Ah, il y a eu un Barbou qui était un imprimeur. Ah, je le connais pas, lui.
Et donc,
c'est joli. Mais alors, tu sais que là, tu t'arrêtes à la moitié de l'histoire, hein, parce que ça, c'est Pline. Effectivement, il y a ce combat entre les deux grands peintres grecs antiques, hein, donc Parasios et Zeuxis, effectivement. Et Zeuxis, effectivement, fait cette grappe de raisin qui arrive à tromper les oiseaux.
Oui, c'est ça.
Oui, mais attends. Parasios n'a pas montré sa peinture. Et à ce moment-là, Zeuxis lui demande de montrer sa peinture, et il lui dit, alors Parasios a une peinture qui est visiblement sous un tissu. Et Zeuxis lui dit, bah vas-y, montre maintenant ta peinture. Lui, il a l'impression d'avoir gagné, évidemment. Et à ce moment-là, il s'aperçoit que, en fait, la peinture n'est pas recouverte d'un tissu, que c'est un tissu peint. Et donc, Lui, il a réussi à convaincre, à tromper l'esprit des oiseaux, mais Parasios a réussi à tromper l'esprit d'un peintre.
Voilà.
Et donc, c'est encore plus fort, quoi. Voilà. Et donc, c'est Parasios qui gagne, finalement.
Et ben, voilà une conversation qui est déjà pleine de choses.
pleine de perspectives.
Et donc, en fait, pour alors l'étrangeté de la chose fait que Pline, c'est plein en roumain. Donc bon, peut-être que là, il y a aussi des continuités. Donc si tu veux bien, on peut continuer la semaine prochaine. Parce qu'on, voilà, c'est quand même
Trouver des noms, mais bon.
on va commencer à... Bah, je pensais notamment aussi à Ravisius Textor, parce que c'est quand même c'est quand même un grand dossier. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup à dire.
Ah bah là, on est en train de, comme tu sais, on est en train de le travailler un petit peu, là, hein, et avec des érudits, là, hein, notamment un monsieur qui s'appelle Nathael Distas, et qui est un peu le spécialiste, comme ça, de Ravisius Textor, là. Oui, bien sûr. Alors, et pour revenir à l'histoire là, de la peinture et du tissu, je me disais que au fond, un tissu sur une peinture, c'est un peu comme une barbe sur une joue. Voilà.
Alors, ouais. Alors, ça va. Ça oui, ça va habiter ma journée.
Bon.
Bah, très bien.
J'espère. À bientôt.
Je t'embrasse.
Moi aussi. J'embrasse tout le monde. Ciao.